Bonsoir, bienvenue. Mesdames, Messieurs, chers amis de la musique et de l'opéra, ça me fait très plaisir de vous voir ce soir et de vous revoir surtout. Je vois beaucoup de fidèles qui ont passé le dernier semestre, en tout cas avec nous et avec Charlotte autour du ring. Donc merci d'être venus ce soir. Bienvenue à la Maison Heinrich Heine. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir pour une rencontre exceptionnelle avec Alexandre Neff, directeur général de l'Opéra National de Paris, à l'occasion d'une discussion qui promet d'être aussi passionnante qu'éclairante. Depuis 2020, Alexandre Neff est à la tête d'une des institutions lyriques les plus prestigieuses au monde, véritable ville dans la ville, au rayonnement international. Son parcours, son regard sur l'avenir de l'opéra et son engagement face aux défis contemporains, qu'il s'agisse des enjeux de financement, bien entendu, de la transition durable ou de l'évolution des publics, seront au cœur de nos échanges ce soir. Cette discussion prend une résonance toute particulière alors que l'Opéra de Paris célèbre les 150 ans du Palais Garnier. Et 226 marque également les 150 ans de l'Anneau du Nibelung de Wagner, qui est célébré à l'Opéra National de Paris par une nouvelle production prélude à un grand festival ring annoncé pour l'automne 2026 et qui est donc dans une certaine résonance pour ceux et celles qui étaient ici suivre la projection du ring dans la mise en scène de Chéreau et Boulez. Cette rencontre s'inscrit donc dans le prolongement des célébrations que la Maison Heinrich Heine a consacrées tout au long de l'année 2025 à cette mise en scène liée à l'anniversaire de Boulez. Nous aurons ainsi le privilège de découvrir les coulisses de cette institution monumentale et la vision artistique qui l'anime aujourd'hui. Nous remercions très chaleureusement Alexandre Neff de nous consacrer son temps, d'avoir accepté notre invitation et de se prêter à cet échange ici ce soir. C'est un grand honneur. Merci beaucoup. Ainsi qu'à Charlotte Landru-Chandès, journaliste spécialisée dans la musique classique, qui nous a accompagnés donc tout au long de notre cycle ring et qui animera cette rencontre ce soir. Merci également à vous, cher public, pour votre présence, pour votre fidélité dans cette année qui est aussi une année particulière pour nous, pour cette maison qui fête ses 70 ans. Ça ne fait pas 150, mais quand même, c'est une petite étape, une belle évolution que nous célébrons tout au long de l'année et tout particulièrement à l'automne. Et si vous êtes intéressé par les enjeux de l'opéra, mais peut-être aussi les formes plus petites comme l'élite, vous allez trouver votre compte parce qu'il y aura plusieurs dimanches de musicales autour de Heinrich Heine et le Lied. Donc je ne peux que vous encourager de prendre le programme et de le feuilleter peut-être autour d'un petit verre qui vous attend à la suite. Il y aura un verre de l'amitié au foyer à la suite de ces échanges. Je n'arrive plus à parler ce soir, désolée. Et je serai très heureuse de vous y retrouver tout à l'heure pour continuer les échanges dans le foyer. Alors, beaux échanges à nous tous, une très belle soirée et merci encore.
Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus pour cet échange. Bonsoir, Alexandre Neff.
Bonsoir.
Alors, la première question qu'on peut peut-être se poser, c'est quel est votre parcours ? Parce qu'on vous voit donc directeur de l'Opéra de Paris, mais on ignore comment vous en êtes arrivé là.
Comme beaucoup de mes collègues, en fait, j'ai un parcours, disons, inhabituel, parce que je n'étais pas du tout né pour devenir directeur de l'Opéra. C'est peut-être une bonne chose. Je suis né en Allemagne, petit village de 2000 personnes. Comme j'aime dire, les seules offres culturelles, c'était l'église catholique et protestante. Mais j'ai eu la chance d'aller dans mon petit lycée de campagne et y recevoir une très bonne éducation culturelle. Et l'essence de ça, quand j'y pense aujourd'hui, ce que cette éducation m'a apporté, en fait, c'est de me sentir légitime envers les œuvres et les institutions. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de théâtre, il y avait une petite bibliothèque, mais le moment où j'ai franchi pour la première fois les portes d'un théâtre ou d'un musée, l'école m'avait appris, en fait, que c'est pour moi, que ça parle de moi. Et aujourd'hui, c'est peut-être un des moments les plus importants de ma vie, que l'école m'a donné ses clés. Et du coup, j'ai fait ensuite des études de latin et d'histoire, toujours pas d'opéra à l'horizon professionnel, même si à cette époque-là, l'opéra et la musique classique étaient devenues, par l'école et par la radio, une de mes grandes passions. Et j'avais la chance, vers la fin de mes études, de rencontrer Gérard Mortier, qui à l'époque dirigeait le Festival de Salzbourg et qui, après quelques échanges et 2 ans de connaissances, un jour, il me dit « C'est quand la fin de vos études ?» Et qui me dit, je lui dis dans 4 semaines, c'est mes derniers examens. Il me dit, ok, dans 6 semaines, vous commencez à travailler pour moi. Et la tentation était un peu trop grande. J'ai lâché l'école, j'étais destiné à devenir professeur de latin et histoire. Et j'ai lâché l'école publique allemande. Et j'ai d'abord travaillé pour Mortier dans la Ruhr en Allemagne, où il fondait un nouveau festival. Ensuite, ici à Paris. On a passé 10 ans ensemble. Ensuite, j'étais nommé directeur de l'Opéra de Toronto au Canada, que j'ai dirigé pendant 12 ans, sans savoir qu'un jour, on me demanderait de revenir diriger l'Opéra de Paris, ce que je fais maintenant avec un énorme plaisir depuis 6 ans. C'était la version courte. On peut approfondir si vous le souhaitez.
On va approfondir certains points, très certainement. Ce que je me demandais aussi, c'est... comment se décide une saison à l'opéra, finalement? Qui décide quelles vont être les productions, combien de temps à l'avance, qui décide de la mise en scène, toutes ces questions? Ça fait peut-être beaucoup.
Non, j'essaie d'organiser la réponse. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments. En fait, on fait semblant que tout est artistique. À la fin, pour la plupart, c'est organisationnel et financier. Normalement, pour le lyrique, ça s'organise au moins 3 voire 4 ans en avance, surtout pour la disponibilité notamment des chanteurs et des chefs d'orchestre. Pour nous, les chefs d'orchestre, c'est très important, et par rapport à un orchestre symphonique où un chef passe une semaine pour faire des répétitions et quelques concerts, pour nous, on a besoin des chefs d'orchestre pendant 6 ou 8 semaines pour répéter et pour une série de spectacles qui peut être plus ou moins longue. Du coup, de nous donner un montant de temps très important dans leur année, il faut être là quand ils ont encore la disponibilité. Du coup, c'est assez crucial. Après, il y a sur une vingtaine d'opéras qui composent la saison de l'opéra, on fait aujourd'hui 6 nouvelles productions qui normalement se décident un peu avant les reprises. Et mon approche est assez systématique par rapport aux nouvelles productions. On les organise en 4 piliers. D'abord, les grandes œuvres du répertoire dont il faut à n'importe quelle grande maison d'opéra. Quand je suis arrivé à l'opéra n'avait pas de Turandot, n'avait pas de Nos Figaro, par exemple. Du coup, c'est des titres qu'il nous faut. C'est une quinzaine de titres, notamment de Verdi, Puccini, Mozart et quelques autres. Et c'est un peu la base du répertoire, si vous voulez. Après, il y a un autre pilier très important qui est les pièces maison. Je les appelle pièces maison, ça veut dire des opéras qui ont été créés à l'Opéra de Paris. Et puisque nous avons cette année 357 ans, il y en a. Et c'est très important que chaque saison, au moins une ou deux nouvelles productions de notre répertoire maison. Ensuite, le répertoire français... De façon un peu plus globale, rien de plus difficile de faire aimer le répertoire aux Français par rapport à la fierté que les Italiens portent pour le répertoire italien, ou même les Allemands qui ont une certaine fierté, même si pas tout le monde aime Wagner en Allemagne, mais quand même, nous en sommes un peu fiers d'inspirer cette fierté en Gounod, Massenet, Rameau et bien d'autres. Ce n'est pas chose facile. C'est toujours plus facile de vendre la Traviata, le Trouvère, que Manon. Et après, un quatrième pilier qui est aussi très important, c'est les œuvres du 20e, 21e siècle et les commandes. Du coup, on essaie de toucher un peu à tout ça dans des nouvelles productions, et ensuite s'organisent les reprises. Ce sont des productions que nous avons déjà présentées dans le passé. Et tout ça, c'est une danse, si vous voulez. Parce qu'on ne décide pas d'un titre, ensuite on distribue, par exemple, ni pour les reprises, ni pour des nouvelles productions. Il y a beaucoup de répertoires, surtout les répertoires dramatiques, très difficiles, où à notre niveau, il y a entre 3 et 5 chanteurs au monde qui chantent ça. Du coup, je ne peux pas programmer certains titres si je ne sais pas qui va chanter les rôles titres. Après, il y a d'autres répertoires, les Handel, les Mozart, où je sais, si je programme un Mozart aujourd'hui pendant 4 ans, je vais trouver une très belle distribution de gens connus ou pas connus qui ne vont pas démériter. Du coup, ça, c'est la petite danse aussi. On a parlé des chefs d'orchestre. Et pour les nouvelles productions, évidemment, les metteurs en scène. Et ce qui, pour moi, est la chose la plus importante, c'est de penser ça comme une équipe qu'on forme. Parce que pas n'importe quel chanteur travaille bien avec n'importe quel metteur en scène ou chef d'orchestre. Et on peut organiser un projet, au moins avec l'espoir que ça fonctionne entre eux. Mais on peut aussi l'organiser et on sait déjà que ça va coincer. Du coup, je préfère mettre les gens ensemble et qu'ils vont bien travailler ensemble.
Et justement, donc vous dites que certains rôles demandent certaines voix très rares. Ça me fait penser à cette période du Covid où vous êtes arrivé en 2020, où devait être donné le ring, déjà à cette époque, et la distribution prévue a forcément changé, puisque finalement le ring est donné depuis un an. Comment on fait pour s'adapter quand il y a peu de voix qui correspondent et en même temps les chanteurs qui devaient chanter ne peuvent plus forcément chanter les rôles?
Une des raisons pourquoi ce ring qu'on a abandonné en 2020, en fait on était en répétition pour l'Or du Rhin au moment où tout a fermé. Et à l'époque c'était programmé de faire en succession assez rapide les quatre volets du cycle, ensuite terminé avec deux cycles entiers au mois de novembre, tout ça en 2020. Et du coup, on a abandonné l'Or du Rhin, on était fermé. Quand je suis arrivé début septembre, c'était déjà clair qu'on ne pourra plus préparer les quatre volets en version scénique pour les cycles au mois de novembre. Mais il n'y a pas le temps de répétition. On a entretenu pour un petit moment l'espoir de pouvoir les donner en version concert avec public. Et ce rêve s'est brisé parce qu'on est resté fermé. En fait, on a ouvert et après, on a tout de suite refermé. Et du coup, ça donnait à Philippe Jordan et les équipes de distribution, comme les équipes de l'Opéra, l'occasion de tourner l'Opéra Bastille en studio d'enregistrement. Mais on a enregistré pour la radio les quatre volets du cycle. Ce qui était la seule solution qui restait pour en garder quelque chose. Et l'avantage était, on avait beaucoup de temps parce qu'on n'avait rien d'autre à faire. Du coup, Philippe, il pouvait vraiment beaucoup répéter. Et c'était des conditions très, très agréables, mais sans public, ça restait quand même très, 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 très décevant. Après, le témoignage de l'enregistrement tient bien la route. Et c'était aussi pour Philippe qui terminait son mandat de directeur musical, un bon témoignage à laisser de la période qu'il avait passée avec l'orchestre pendant 12 ans. Parce que pour l'orchestre, la tétralogie, c'est un peu le Mount Everest du répertoire. Et ensuite, se poser la question, qu'est-ce qu'on va faire avec ces décors qui étaient déjà construits? Il y a un ring qui existait en partie. Et j'ai décidé assez vite de ne pas le jeter, mais de le reprogrammer. Et on s'est posé la question, quand est-ce qu'on le reprogramme? Et du coup, l'année 26 nous est arrivée assez naturellement. Vous l'avez dit déjà, les 26, c'est les 150 ans du ring. Et on s'est dit assez rapidement, déjà, ça nous donne assez de temps pour rassembler les distributions, etc. etc. Et que l'Opéra de Paris puisse proposer, pour le 150e anniversaire du ring, deux cycles entiers, tout ça a commencé à prendre un certain sens.
On va revenir juste après sur ce ring 2026. Juste avant, Philippe Jordan donc, avait déjà donné le ring à l'Opéra de Paris vers 2009-2010, il me semble. Et à l'occasion d'une interview justement que vous meniez avec lui, vous lui aviez demandé comment faire pour habituer cet orchestre qui est l'orchestre de l'Opéra de Paris au répertoire allemand dont il n'était pas nécessairement habitué, notamment ce cycle monumental qu'est le ring. Comment on fait pour amener un orchestre français à jouer un répertoire allemand aussi difficile pour eux?
Question complexe, parce que pendant longtemps, et tout le monde a oublié ça, c'est pas l'Allemagne qui avait les meilleurs orchestres. Au moins au début du 19e siècle, il y avait toujours quelques orchestres très connus, l'orchestre de Mannheim qui est devenu l'orchestre de Munich. Mais ici à Paris, Habeneck, qui a commencé à donné des concerts, notamment qui a introduit des symphonies de Beethoven à Paris, et c'était réputé pour être le meilleur orchestre du monde. Du coup, et toute cette histoire de Paris comme capitale de la musique du 19e siècle, avec des moyens pour l'opéra, mais pas que, qui était assez extraordinaire, tout le monde voulait venir travailler à Paris. Du coup, le grand rêve de Wagner, jeune compositeur, était d'être accepté à Paris. Il a essayé à vendre à l'opéra Le Vaisseau Fantôme, il a écrit en partie Les Maîtres Chanteurs ici à Paris, et après il y avait le grand scandale échec de Tannhäuser en 1861, qui était un pari de l'ambassadrice d'Autriche avec l'empereur, et l'empereur a accepté de donner Tannhäuser, et c'était perdu d'avance, parce qu'on s'est organisé pour que ce ne soit pas un succès. Et c'était aussi en opposition contre l'empereur. Tout ça a été très, très politique. Du coup, Wagner est parti de Paris. Le rêve d'être accepté dans la capitale musicale du monde s'était cassé. Après, il s'est retiré sur la colline à Bayreuth. Il a organisé son propre théâtre avec l'argent du roi de Bavière. Cette ambition d'écrire une musique qui a des exigences orchestrales très très importantes. C'est certainement inspiré par la qualité des orchestres à Paris de l'époque. Bon, la grande époque de Meyerbeer et tout ça, c'était vraiment les plus grands opéras au monde se passaient ici. Même des gens comme Verdi, tout le monde avait besoin d'être donné à Paris. Ça fait un sens quand nous, on a envie de continuer cette tradition. Après, l'Opéra de Paris n'a pas une tradition ininterrompue avec le Ring, même si on a commencé à donner du Wagner en français. Moi, je suis convaincu qu'en fait, Wagner aurait préféré qu'on donne ses œuvres en français à Paris, parce qu'il a toujours voulu que le public comprenne les mots. Aujourd'hui, on cède avec les surtitres, et le marché de chanteurs s'est tellement internationalisé qu'il n'y aura plus personne qui apprendrait ça en anglais, en français, en allemand, selon le lieu où ils chantent. Mais de porter cet héritage avec notre orchestre, c'est une fierté. Il y avait plusieurs tentatives. Il y avait un Ring qui a commencé à Garnier à l'époque de Liebermann, qui était abandonné après la Valkyrie, parce que Scholti, qui était le chef, a quitté l'opéra. Ils étaient déjà au deuxième metteur en scène parce que Peter Stein, qui avait signé le Rheingold, ne voulait pas continuer. C'est Gruber qui est arrivé pour faire la Valkyrie. Après, tout s'est arrêté. Et après, en fait, on a traversé une très, très longue période sans Ring. Et c'est qu'en 2009-10, que l'opéra, cette fois-ci à Bastille, a entrepris un premier Ring entier, dirigé par Philippe Jordan, assez jeune directeur musical de la maison, et qui a commencé un voyage avec l'orchestre, et un voyage qui était son voyage propre, parce que son premier Ring de 9-10 n'avait absolument rien à voir avec le Ring qu'il a enregistré 10 ans plus tard. Et on en a beaucoup discuté, il y avait énormément... Mais en fait, il faut qu'on vive avec les œuvres, surtout avec des œuvres si complexes. On ne les saisit jamais complètement, surtout pas une première fois.
Donc le Ring, cette fois-ci, le Ring de 2026, est encore très différent des Rings déjà donnés, donc avec Philippe Jordan. Donc maintenant, c'est Pablo Heras Casado qui dirige. Ce Ring mis en scène par Calixto Bieto nous plonge dans un Ring à l'époque de l'intelligence artificielle. Concrètement, qu'est-ce qu'on va voir quand on va voir ce Ring mis en scène par Calixto Bieto?
On en a vu trois quarts. Je pense qu'il y a un certain voyage qui commence à se dessiner. Calixto se refuse aujourd'hui de l'expliquer. Il m'a dit l'autre jour, au moment du crépuscule, je vais donner des interviews pour dire ce que j'ai voulu faire. Parce que, en fait, c'est tellement immense comme matériel. Et en même temps, c'est tellement fragile parce que vous avez, pour la plupart de ces œuvres du Ring, c'est des œuvres énormes qui sont des opéras de chambre en même temps. Parce que vous avez, avec des moyens colossaux, deux ou trois personnes sur scène. C'est assez intéressant le choix de Wagner d'ailleurs d'enlever le chœur, sauf dans le Crépuscule des Dieux, et de vraiment construire des petits groupes de gens qui se retrouvent dans ce vaste univers. Et du coup, c'est aussi dans le travail avec ces gens-là que se construit le récit. c'est pour ça que c'est assez important, mais on va y revenir, de former un groupe de gens qui va travailler ensemble sur ces rings pour faire ensemble ce voyage. Évidemment, ce qui nous emporte aujourd'hui, Franz Wagner, il avait sa propre formation intellectuelle qui passait par Bakounine et bien d'autres. Après, il est devenu un grand nationaliste et antisémite. Du coup, il y a vraiment des bagages assez lourds, hein, intellectuellement, avec lesquels il s'est construit ce ring. Et il a choisi la mythologie germanique comme une métaphore, hein, en fait. Ce qui est la chose la plus intéressante, et surtout l'histoire du 19e siècle, pas seulement de l'opéra, mais aussi du théâtre, c'est une histoire de qu'est-ce qu'on peut dire ou pas dire, hein, sans être censuré. C'est quelque chose qui est assez absent dans notre réflexion, mais il faut toujours se poser la question, et quand on est metteur en scène aujourd'hui, il faut se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire? Et évidemment, ça ne veut pas toujours dire la même chose, parce que même si je crois que les œuvres ne changent pas beaucoup, nous ne sommes plus les mêmes. Ça veut dire, nous ne sommes pas les contemporains de Wagner, ni sont les artistes qui donnent cette étalogie des contemporains de Wagner. Du coup, par défaut, et puisque nous ne sommes pas une bibliothèque, nous sommes un lieu de spectacle vivant, pour mettre sur scène les œuvres, il va bien falloir qu'on permette aux artistes d'aujourd'hui de les lire pour nous, public d'aujourd'hui. Et je pense que Wagner, il aurait partagé cette réflexion, parce qu'il y a des lettres de Wagner après les premiers spectacles à Bayreuth où il disait « c'était pas du tout ce que j'ai voulu faire, mais il n'y avait pas des moyens pour faire différemment. » Et des moyens techniques. Par exemple, si Wagner, dans sa vision, avait aujourd'hui les moyens de vidéo et de l'éclairage que nous avons aujourd'hui, il en serait ravi, j'en suis sûr. Et il aurait certainement, il se serait posé la question, sans doute aussi, comment je raconte cette histoire aujourd'hui. Et vous voyez, par exemple, l'histoire, vous avez parlé des projections du ring de Chéreau, qui était peut-être, il y a 50 ans, l'interprétation la plus radicale qu'on avait vue du ring et qui était conspuée à Bayreuth à sa création et qui est devenue aujourd'hui le grand classique des mises en scène de la tétralogie. Ça raconte une petite histoire que Chéreau y a trouvé des choses qui résonnaient avec son temps. Et ça résonnait peut-être un peu trop fort. C'est aussi un thème wagnérien, ça résonne un peu trop fort, du coup on le rejette d'abord et après il s'installe une certaine familiarité. Et c'est ça qui nous intéresse, en fait, de demander aux artistes d'aujourd'hui de nous proposer leur lecture des œuvres. Et c'est pas, il n'y a pas une seule vérité. La beauté de l'art, c'est qu'il n'y a jamais une seule vérité. Il n'y a personne qui a tort ou raison, en fait. Et l'opéra, qui vient de la tragédie grecque, qui à la fois est une expérience individuelle et collective. À Bastille, vous avez 2700 personnes qui voient la même chose et pas du tout. Et je dis toujours, si vous êtes la seule personne qui aime ou qui n'aime pas, vous n'avez pas plus ou moins raison que la grande majorité qui aime ou qui n'aime pas. Et je pense qu'il faut vraiment garder en tête cette dynamique. Et il faut l'encourager de s'ouvrir à cette émotion qu'un spectacle peut procurer. Et après, d'en tirer vos propres conclusions. Et la beauté d'un spectacle en salle, comparé à un spectacle filmé, par exemple, là, vous êtes, quand vous êtes dans la salle, vous avez une responsabilité en tant que membre du public, parce que si vous êtes passif, vous ne prenez pas de décision, vous ne participez pas au spectacle. Quand vous regardez une captation, il y a quelqu'un qui a pris énormément de décisions pour vous déjà. Quoi regarder? Et c'est ça qui fait la force de cette expérience, et surtout quand on fait un voyage qui dure à la fin, pour une Valkyrie, un Siegfried, un Crépuscule, on passe entre 5 et 6 heures ensemble. C'est des émotions très fortes qui se dégagent.
Donc ce ring qui sera donné de manière très rapprochée en novembre, c'est bien ça, 2026. J'en perds ma question. Non, pas du tout, mais beaucoup de questions me sont venues à l'esprit. Oui, il y a tout un festival qui sera organisé autour de cet événement. Qu'est-ce que les gens pourront découvrir? Parce qu'il y aura des conférences également qui seront données autour du ring. Par exemple, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus?
Déjà, il faut dire le ring prend tout son sens quand on fait des cycles. Parce que l'œuvre était conçue de telle. Après, il faut aussi dire, nous, on n'est pas censé de donner le ring. C'était pour Bayreuth. Le ring et Parsifal, c'était les deux grandes œuvres que Wagner a écrites pour Bayreuth, pour la Faust de Bayreuth, pour la salle de Bayreuth. Après, évidemment, tout le monde en voulait. Et quand on a commencé à donner ces œuvres hors de Bayreuth, Wagner était déjà mort. sa veuve et sa famille s'y sont violemment opposés. Il voulait vraiment garder le privilège de ses œuvres. Après, les grands chefs d'orchestre, les maisons d'opéra, il voulait les donner. Il n'y a pas pour le Ring, mais pour Parsifal, cette fameuse histoire quand les droits de Wagner ont expiré, le lycée à Barcelone a commencé un spectacle de Parsifal à minuit et une minute. Pour donner l'intégralité de Parsifal hors de Bayreuth. Et il y a des complexités, en fait, quand on donne le Ring. Oui, on n'est pas à Bayreuth, déjà, on n'a pas de fosse couverte. À Bayreuth, la fosse est couverte et c'est des grands, des grands pas qui descendent très profondément en dessous de la scène. Et la conception de Wagner, il a très bien compris qu'il avait écrit une orchestration très, très nourrie. Et le principe acoustique de Bayreuth, c'est que le son qui est produit en fosse passe par le plateau, se mélange avec les voix des chanteurs avant de passer dans la salle. Dans une salle avec fosse ouverte, le chanteur sur scène doit chanter à travers un mur de son qui émane de la fosse, ce qui demande un investissement physique et une projection bien plus importante que dans la salle de Bayreuth. En plus, la salle de Bayreuth n'est pas si grande que ça. Le volume de Bastille est bien plus vaste. Du coup, c'est des défis logistiques et artistiques à surmonter qui sont pressants. Mais en même temps, il y a peu de choses pour une maison d'opéra qui rassemble toute la maison comme un projet d'Iring. Et qui, c'est vraiment un voyage qu'on fait pas seulement avec vous, public, mais on le fait avec nous, en interne, parce que c'est tellement monumental de monter ces quatre opéras, de traverser tout ça, parce qu'il y a, en fait, il y a toutes les directions qui participent, hein, entre les décors, les costumes, la communication, l'avant des places. Tout le monde embarque sur ce voyage immense et on en ressort changé. Et du coup, c'est très très beau de partager ce genre de défi. Et c'est une des raisons aussi pour faire. On a parlé de l'orchestre déjà, de traverser la monumentalité de cette écriture orchestrale de Wagner. Le collectif en sort changé. Et c'est ça aussi, ça fait partie, je pense, de mon rôle, de poser ce genre de défi à la maison pour encore monter.
On disait juste avant que pour donner un opéra à telle époque, donc un opéra contemporain, il faut, disons que l'opéra, la mise en scène donnée il y a 50 ans ne parle plus forcément au public d'aujourd'hui. Et depuis le début de votre mandat, on remarque qu'il y a beaucoup de mises en scène qui mêlent les arts, les disciplines. Et vous faites par exemple appel à un photographe, un acteur, par exemple, je pense à Ralph Fiennes pour Eugène Onéguine. Vous mêlez les arts comme ça. Est-ce que c'est un moyen justement d'amener le public un peu plus vers l'opéra, de le sensibiliser à d'autres arts qu'il peut connaître et qui sont peut-être plus variés?
C'est peut-être pas ça ma réflexion. Ma réflexion d'abord, c'est que j'aime juste travailler avec des gens avec lesquels je n'ai jamais travaillé. Parce que ça, il y a toujours une inspiration qui s'en dégage, pas seulement pour moi personnellement, c'est aussi la rencontre de la maison avec un artiste qui ne nous connaît pas ou pas encore, qui connaît pas la maison. Des fois, il faut aussi qu'il se familiarise avec le genre et de prendre quelqu'un à la main, de traverser un processus, de préparer une production et leur donner les outils aussi pour se sentir légitime chez nous. Et de se passionner pour le genre d'opéra, je trouve que c'est très important qu'on reste pas à ce huis clos des gens qui sont déjà là, qui nous aiment déjà, qui savent déjà comment faire. Je pense qu'il faut ne jamais avoir peur de s'ouvrir et de poser le défi. Nous, évidemment, on aime l'opéra, c'est une évidence, mais de faire aimer l'opéra aussi, et pas seulement par le public, mais aussi par des artistes que nous introduisons dans notre cercle. Et l'opéra, depuis toujours, a été un croisement des arts. Ça, ce n'est pas une invention du XXIe siècle. Dès le départ, pour réaliser un opéra, en fait, l'élément scénique qui se mélange avec l'élément musical et dramatique, c'est l'essence de cet art.
Donc ça a tout son sens de donner production au metteur en scène.
Moi, je crois que le matériel en soi ne change pas beaucoup, mais on a parlé déjà des moyens techniques, la lumière et la vidéo. Encore une fois, j'ai du mal à penser que Wagner aurait refusé la vidéo s'il l'avait connue, par exemple, ou ce qui était les toiles peintes au 19e siècle, il y a d'autres médias qui racontent ça aujourd'hui, et pas que. Je trouve cette réflexion vraiment très intéressante, parce que si on réfléchit à l'opéra au 17e, 18e, 19e siècle, c'est une période assez stable. Et on n'était pas en compétition avec beaucoup d'autres médias, en fait. Il y avait un peu de presse imprimée, des livres. Il n'y avait pas de télé, pas de cinéma, pas de radio. Et aujourd'hui, nous sommes en compétition. Et du coup, ce que ça veut dire, c'est l'opéra, avant le XXe siècle, était vraiment un lieu pour le public. On proposait des spectacles qui étaient considérés réalistes. Parce qu'il n'y avait pas d'autres moyens, il y avait à peine la photographie, hein, du coup, un décor peint pour le public, c'était un peu la chose la plus réaliste qu'il pouvait voir dans le théâtre. Aujourd'hui, si on reste dans cette compétition, il y a le cinéma avec les effets spéciaux, la télé, etc., qui font le réalisme bien mieux que nous. Du coup, il faut que je me pose la question, qu'est-ce que ça veut dire pour moi, opéra, de m'inscrire dans un monde où il y a toujours nous qui, d'une certaine façon, sommes la chose la plus analogue qui reste dans un monde de plus en plus digital. Mais comment je m'organise ou comment je réfléchis à cette compétition ou juste cohabitation avec les autres médias qui m'entourent et que j'invite aussi ces médias-là à participer au genre lyrique.
Depuis votre arrivée à la tête de l'Opéra de Paris, vous avez mené de très nombreux projets, comme par exemple la réintroduction de la troupe de l'Opéra de Paris, qui avait disparu depuis une trentaine d'années. En quoi est-ce important pour un opéra d'avoir une troupe et comment est-ce que ça fonctionne?
Alors l'idée de la troupe ne serait jamais arrivée sans la pandémie. Il faut le dire, parce que la pandémie, c'était une période de 2 ans où tout à coup, plus personne n'avait du travail. Et pour des gens qui étaient employés dans une maison, il y avait évidemment des solutions, des soutiens, etc. Mais normalement, vous le savez, un chanteur lyrique n'est pas affilié à une maison d'opéra. Il passe d'un contrat à l'autre, chante une production là, une autre production dans une autre maison. Et du coup, il y a tout ce monde, le chanteur lyrique, qui se sont trouvés sans emploi et donc sans revenu. Parce qu'en France, on avait un peu de chance parce que, aussi pour des raisons légales, on a indemnisé en partie les chanteurs lyriques. Il y a d'autres pays en Europe qui ont interdit aux maisons d'opéra de rémunérer les chanteurs. Du coup, c'était un champ très difficile. Nous avons engagé avec un certain groupe de chanteurs une réflexion sur comment on peut proposer au sein de l'Opéra de Paris à un groupe de chanteurs un revenu plus stable. Si quelqu'un fait le choix de plutôt être ici, de ne pas faire une carrière qui, chaque 6 à 8 semaines, vous êtes dans un autre endroit pour chanter une autre prod, et comment ça peut s'organiser, et qu'est-ce que ça peut apporter à la maison. Et nous avons évidemment les collectifs artistiques maison déjà qui existent, les chœurs, l'orchestre et le ballet. Il y avait à un moment une troupe lyrique qui était un peu une troupe d'un autre monde, parce que le business, si vous voulez, était beaucoup, beaucoup moins international à l'époque. Et aujourd'hui, où si vous avez une carrière d'un certain niveau, vous chantez un peu partout au monde. C'est même organisé de cette façon pour que vous puissiez avoir une présence dans des villes différentes, avec des publics différents. L'idée ou la question était vraiment, est-ce qu'on peut rassembler au sein de l'Opéra de Paris un petit groupe de chanteurs, on parle d'une quinzaine de chanteurs, qui ont envie de passer quelques années avec nous, de grandir, d'avoir une situation stable. Et là, ça va faire 3-4 ans que cette troupe fonctionne. Pour moi, elle fonctionne très très bien parce qu'en fait, elle crée quelque chose que nous n'avons pas eu depuis un petit moment. Il y a un élément dans quasiment chaque production des gens qui travaillent toujours ensemble. Du coup, ils ne se rencontrent plus le premier jour de répétition. Ils doivent commencer à se connaître. Mais ils connaissent déjà d'autres spectacles et ils fonctionnent comme un élément stabilisateur pour le reste. Et d'ailleurs, les chanteurs invités qui arrivent sur ces productions-là, où c'est pour la plupart des petits rôles, des rôles moyens qui sont composés par les membres de la troupe, qui disent on arrive quelque part où il y a déjà une base. Et pour eux, c'est plutôt très agréable de se retrouver quelque part sur cette base-là et de se produire sous ces conditions-là.
Et les membres de la troupe restent combien de temps au sein de la troupe?
Entre 2 et 3 saisons en moyenne. parce que pour nous, l'idée n'est pas d'avoir une troupe comme à l'époque. Quand Lieberman est arrivé, il y avait des gens qui étaient dans la troupe depuis 50 ans et qui ne pouvaient plus chanter, mais ils étaient en CDI, on ne pouvait pas les virer. Du coup, ce n'était pas ça l'idée de notre troupe, que ça grandit chaque année et on se retrouve avec des gens. On ne sait plus quoi faire avec eux à partir d'un petit moment. L'idée est vraiment d'une troupe qui se renouvelle tous les 2-3 ans, où les gens qui... Ce qui marche d'ailleurs très bien pour certains d'entre eux, ils se produisent sur notre scène, ils attirent l'attention, ils trouvent un agent qui les aide à bâtir une carrière d'artiste invité à la fin de leur séjour dans notre maison.
Et un autre grand projet du moment, c'est la création d'une maîtrise aussi à l'Opéra de Paris. Pourquoi donner à l'Opéra de Paris cette maîtrise ?
On pourrait se demander pourquoi l'Opéra n'en a jamais eu, ou pas depuis un petit moment. Et du coup... on a, par des événements que vous connaissez, qui nous ont amené un peu à rompre avec la maîtrise qui était la nôtre depuis un petit moment, on a décidé de monter notre propre maîtrise aussi par un souci d'en déterminer la qualité en fait, et de monter un projet qui répond au travail qu'on fait au sein de notre académie en termes d'éducation artistique pour les jeunes, de transmission aussi. Un travail avec des milieux défavorisés et pour les amener à l'opéra. Et pas seulement en tant que spectateur, mais aussi de leur proposer des opportunités de pré-professionnalisation pourrait les amener à vouloir être chanteur. On fait déjà la même chose depuis quelques années avec notre orchestre de jeunes qui fonctionne exactement avec le même principe. Parce que si vous regardez... Je ne sais pas comment c'est dans d'autres pays en Europe. En France, aujourd'hui, la plupart des musiciens sont fils ou filles de musiciens, toujours. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres enfants qui sont doués pour un instrument. Mais quand vous êtes très jeune, et si vous voulez réussir un instrument aujourd'hui, si vous ne commencez pas à l'âge de 5 ou 6 ans, vous êtes déjà un peu en retard. Et à cet âge-là, tout seul, tenir, jusque vous avez l'âge d'entrer dans un conservatoire, c'est très long. Et du coup, c'est un peu là où on essaie de remplir ce trou qui existe entre les jeunes qui ont envie, qui sont peut-être doués, mais il faut leur montrer où ça peut mener. Et vraiment, de trouver les plus doués, on travaille avec plusieurs conservatoires à Paris et en Seine-Saint-Denis, de trouver les plus doués. Et en fait, ce qu'on fait de façon très très simple, et ce sera la même chose pour la maîtrise, on les fait venir à l'opéra, les week-ends, pendant les vacances scolaires, pour répéter. Et après, on les met sur scène à Bastille ou au Palais Garnier une fois par an et on leur donne cette scène pour se produire. Du coup, on a parlé de légitimité des artistes qui ne sont pas familiers de notre genre. Et avec les jeunes, on fait la même chose. On les met sur la scène de l'opéra et on leur dit « Vous êtes légitimes d'être ici ».
Il y a un programme pour les jeunes danseurs aussi, je crois, que vous avez lancé en 2024.
Il y a déjà l'école de danse de l'opéra à Nanterre qui existe depuis plus que 3 siècles. Et il y a aujourd'hui aussi un petit corps intermédiaire entre les jeunes qui viennent de l'école de danse et qui intègrent tout de suite le corps de ballet. Il n'y a pas tout le monde qui réussit le cocon d'entrée. Du coup, pour celles et ceux qui ne réussissent pas tout de suite le cocon d'entrée et pour quelques externes, on propose depuis 2 saisons Junior Ballet, qui est aussi un programme de formation de 2 ans, qui les prépare soit de refaire le concours d'entrée pour intégrer le corps de ballet de l'opéra, ou les prépare pour d'autres concours, d'autres grandes compagnies au monde.
Alors je vais vous poser une question aussi sur le public de l'opéra. Qui est le public de l'opéra de Paris ?
Il y a beaucoup de réponses possibles à cette question, mais je vais commencer quelque part après si vous voulez m'amener ailleurs. L'opéra de Paris est vraiment l'image propre du centralisme français. Parce que nous accueillons à Garnier et à Bastille la moitié du public lyrique et chorégraphique de France chaque année. C'est énorme. Ça veut dire que c'est nous qui font 50% et tous les autres théâtres d'opéra font le reste ensemble. C'est énorme. Je pense qu'il y a un tel écart qui n'existe nulle part au monde pour un théâtre. Et du coup, notre public est tout de même composé en grande partie des Parisiens et Franciliens. Il y a tout de même... Je pense autour de 20% des Français qui ne sont pas de l'Île-de-France et de Paris, et 20% de touristes. Ce qui n'est peut-être pas aussi important qu'à Vienne, par exemple, mais ça reste très important. Et démographiquement, quand on regarde la démographie, on a un public très jeune, parmi les plus jeunes au monde. La moyenne d'âge est autour de 46 ans. ce qui est l'âge moyen des Français. Aujourd'hui, du coup, on est vraiment au cœur de la cible, ce qui est très bien, et c'est aussi quelque chose, un public qui reste à cet âge-là, année après année. Du coup, on est capable, par le volume de nos spectacles, ce qui est une très très bonne chose, avoir du volume, ça nous permet de couvrir beaucoup de terrain. Il y a plus de 40% de spectateurs chaque saison qui sont de nouveaux spectateurs. Et dans une époque où vous vendez la plupart des places en ligne, les gens sont bien obligés de nous donner leur mail, normalement, pour recevoir leur place. Et s'ils ne nous interdisent pas de rester en contact avec eux, on peut nouer un lien. Et la chose la plus difficile toujours, c'est de faire venir les gens au théâtre la première fois. Une fois venus, et si on peut avoir un lien, on peut essayer de les fidéliser. Et beaucoup d'entre eux, je pense plus que 70% d'entre eux reviennent. Du coup, c'est une mathématique un peu complexe, mais le message est vraiment qu'il y a une grande partie du public qui se renouvelle chaque année et un taux de retention qui est vraiment très important et un public qui couvre quasiment toutes les tranches d'âge.
Donc vous dites que l'enjeu est de faire venir le public la première fois à l'opéra. On en a déjà un peu parlé au cours de cet échange, mais comment faire pour renouveler le public qui est un des enjeux majeurs pour tout ce qui concerne la musique classique et l'opéra sans doute partout dans le monde ?
Il y a une chose qui est extrêmement importante. Nous, on ne le fait pas seul. Parce que nous, on a la chance, en tant qu'opéra de Paris, déjà on est à Paris, et il y a une masse critique de culture, de cultures différentes, d'institutions culturelles différentes à Paris. Je pense que si vous êtes jeune à Paris, c'est quasiment impossible d'éviter une forme de culture ou l'autre. Quand vous êtes pas à Paris, ça peut être un peu difficile. Je vous ai parlé de mon village de 2000 personnes avec les deux églises. Mais du coup, je pense qu'on a une énorme chance ici d'être dans un écosystème qui est très favorable à la culture. Et Paris, en tant que ville, a eu la chance énorme d'avoir fait une sortie de la pandémie bien meilleure que d'autres grandes capitales culturelles du monde. Je pense que Londres, après la pandémie et Brexit, ou New York, ce ne sont plus du tout les mêmes capitales culturelles qu'elles étaient avant la pandémie, pendant que Paris a vraiment gardé cette puissance, cette force. Il y a beaucoup de raisons pour ça, mais nous en bénéficions. Et du coup, nous, on ne se pense pas isolés dans une bulle opéra. Moi, je nous pense toujours en relation avec d'autres institutions culturelles et d'autres genres. Ça, c'est très important déjà parce que, comme on l'a dit, l'opéra est le croisement de beaucoup de genres artistiques et culturels, mais aussi parce que nous avons besoin de nous nourrir de ces influences. On ne peut pas exister dans un huis clos où on se nourrit nous-mêmes. Pour moi, c'est la chose la plus terrible qui pourrait nous arriver. Et les remises en question face à d'autres genres d'art, à d'autres médias, on en a parlé. Je pense que c'est essentiel pour rester ce que nous sommes. Et il y a ce très beau terme qui n'existe qu'en français. Dans d'autres langues, on ne parle pas du genre dit comme ça, du spectacle vivant. Et en fait, cet aspect de... Il y a les deux mots, le spectacle déjà, c'est assez évident, mais que ce soit vivant et dans l'aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment un aspect absolument crucial.
Dans les événements majeurs qui concernent l'Opéra de Paris, il y a aussi les grands travaux qui vont être entrepris en 2027 et pour Garnier et 2030 pour Bastille. Est-ce que ces travaux vont impacter la programmation de l'Opéra, sans doute ? Est-ce que vous allez peut-être créer des partenariats avec d'autres salles de spectacle pour maintenir un rythme assez soutenu ?
Déjà, nous avons la chance énorme de disposer de deux théâtres. Beaucoup d'autres théâtres, quand on fait travaux, on ferme. Nous, on aura la chance qu'il y a un théâtre qui ferme et l'autre qui reste ouvert. Déjà, ça, c'est une situation assez incroyable. Nous avons les trois collectifs maisons pour le ballet qui est une population plutôt jeune qui pourra partir un peu plus en tournée. Mais on voit aussi, nous sommes en train de forger des partenariats avec d'autres théâtres à Paris pour la danse, plutôt comme pour certains spectacles lyriques, pour avoir une présence un peu plus importante. Après, le moment où Garnier ferme, c'est un peu triste pour les amateurs de Garnier, mais Garnier, c'est un tiers de l'activité et moins d'un tiers des recettes. Du coup, pendant que Bastille reste ouvert, il y aura une offre assez nourrie. Pour nous, le vrai défi va être à partir de 2030 quand Bastille ferme, parce que Bastille, c'est 2/3 de l'activité et bien plus que 2/3 des recettes. Du coup, c'est une des raisons pourquoi Garnier ferme d'abord, pour qu'on ait plus de temps pour préparer la fermeture de Bastille, mais aussi Garnier qui a moins de place où la tendance est plus difficile. J'ai besoin que Garnier fonctionne parfaitement avant que je puisse fermer Bastille. Du coup, tout ça a été pensé vraiment dans la durée et ça va nous prendre un petit moment d'organiser tout ça. Malheureusement, ces travaux sont indispensables. C'est des travaux principaux. La raison pour les fermetures, c'est qu'il faut rénover les deux scènes. Mais évidemment, quand vous rénovez la scène, vous ne pouvez pas jouer. Il y a tout ce qui est cintre, circuit électrique, les moteurs qui bougent les décors à Bastille, ça a 40 ans. Et c'est un outil de travail qui est beaucoup, beaucoup utilisé. Et nous faisons de plus en plus face à des défauts de matériel spontanés. L'autre jour, il y a le cintre de Bastille qui s'est mis en panne et ça nous a pris 24 heures de le réparer. Heureusement, on n'avait pas de spectacle ce jour-là, qu'une répétition qui n'a pas pu avoir lieu. Mais il y a de plus en plus de petits incidents comme ça qui se produisent. Et en fait, ce qu'on essaie d'éviter avec des fermetures programmées, c'est un accident industriel qui nous force de fermer d'un jour à l'autre, dans une scène qui est extrêmement vaste et complexe, qui sait faire beaucoup de choses techniquement. Et puisque nous sommes un établissement public, si je suis forcé de fermer abruptement, déjà, il me faut 2 ou 3 ans pour les études et tout ce qui est marché public pour organiser les travaux, et on resterait fermé pendant très très longtemps. Du coup, on essaie d'anticiper ça. Garnier, le sujet est un peu différent, mais c'est une scène qui fonctionne depuis 150 ans, où on a fait des choses, mais on n'est jamais intervenu en profondeur sur les circuits électriques, les moteurs du cintre, etc., etc. Pour les mêmes raisons, il y a des petits dysfonctionnements qui, de façon isolée, ne sont pas si graves que ça, mais où il y a aussi le risque d'une interruption involontaire de l'activité qui peut être très néfaste pour l'établissement. En plus, à Garnier, il y a le sujet du plomb, parce qu'évidemment, tout est peinture de plomb, etc. Et c'est très complexe parce que tout est classé à Garnier, tout le bâtiment est classé, chaque élément, la scène est classée. Du coup, de rénover une scène classée, c'est un défi en soi. Et après, il y a, vous voyez, les travaux à Garnier qui sont plutôt d'ordre patrimonial, qui se font pour la façade de façon continue. Chaque intersaison ou chaque été, on rénove quelques loges, etc. On n'a pas besoin de fermer pour ça. Mais pour rénover les deux scènes, on n'a pas le choix que de fermer.
Et dans l'actualité de la maison, il y a aussi la nomination de Semyon Bichkov comme nouveau directeur musical. Ce sera à compter de 2028, mais il va commencer à travailler dès 2026.
Il travaille déjà.
Oui, c'est vrai, puisqu'il est à l'affiche d'Eugène Onéguine. Qu'est-ce qu'il va apporter, selon vous, à la maison?
On a eu l'épisode un peu malheureuse de Gustavo Dudamel, qui n'est pas resté très longtemps. Et qui a succédé, comme vous le savez, à Philippe Jordan, qui a été directeur musical pendant 12 ans et qui a apporté beaucoup de choses à l'orchestre et la vie musicale de la maison. Et j'ai toujours maintenu que le poste est important, de donner une identité, de suivre de près les deux grands collectifs musicaux, l'orchestre et les chœurs. C'est vraiment crucial. C'est aussi, surtout dans une période de travaux qui sera pour nous une période inhabituelle, de maintenir ces standards. C'est un peu ce qu'on a vécu pendant la pandémie, quand l'activité est perturbée. Le niveau commence très vite à chuter, pas par volonté, hein. C'est juste par circonstance. Et c'était très, très important pour moi d'associer quelqu'un à la maison qui va accompagner l'orchestre et les chœurs à travers de cette période avec un projet qui vise évidemment le lyrique, mais aussi qui nous permettra, les fermetures des théâtres nous permettront pour l'orchestre de monter des saisons symphoniques un peu plus conséquentes. Et du coup, de vraiment maintenir l'activité et la qualité du collectif.
Et Semyon Bichkov, est-ce qu'il a un répertoire de prédilection? Est-ce qu'on peut l'entendre un peu dans tous les répertoires? Est-ce qu'un directeur musical nommé dans la maison doit savoir tout diriger, baroque, classique, romantique? Ou alors est-ce qu'on l'entendra dans certains répertoires en particulier?
Je pense que personne, c'est une bonne chose, est spécialiste de tout. Je pense qu'il a un moment de sa carrière où il sait très bien ce qu'il veut diriger et ce qu'il dirige bien. Après, quand vous regardez seulement son histoire avec la maison, entre Verdi, Wagner, Strauss et maintenant Tchaïkovski, il couvre déjà un certain champ et on va continuer dans cette veine-là.
Il y a un autre point que je voulais aborder qui me revient à l'instant, c'est que vous programmez pas mal de raretés finalement dans la programmation musicale de l'opéra. Il y a par exemple, donc là il va y avoir cet opéra d'une compositrice du XVIIIe siècle, Antonia Bembo. Est-ce que pour vous c'est important de redécouvrir des chefs-d'œuvre ? Est-ce que c'était déjà le cas avant avec les anciens directeurs de l'Opéra de Paris ?
Je pense de façon générale, la liste des choses que vous voulez faire est toujours plus longue que la liste des choses que vous allez faire ou pouvez faire à la fin. C'est un problème qu'on partage tous avec mes collègues et prédécesseurs. Après, on fait des choix. Le choix d'Antonia Bembo est motivé. Déjà, c'est une pièce qui a été commandée par Louis XIV pour l'opéra, mais qui est une pièce un peu inhabituelle parce qu'il ne faut pas oublier que quand l'opéra Royal de musique a été fondée par Louis XIV, on ne donnait pas les opéras en français. Je pense qu'on n'avait même pas l'idée que l'opéra doit être en français parce que tous les opéras de l'époque étaient en italien. Du coup, quand on a passé commande à Cavalli pour les noces de Louis XIV de décrire son Ercole Amante, je pense que l'idée serait venue à personne de donner ça en français parce que le genre était un genre qui était chanté en italien. Après, il fallait un italien, Lully ou Lully, qui avait l'idée de donner des opéras en français. Et qui... c'est assez remarquable quand vous y réfléchissez que Lully, qui est arrivé d'Italie, n'a pas décidé de continuer à donner des opéras en italien, mais qui a dit au roi, maintenant, on va faire notre truc. On va faire des opéras en français. On va inventer la tragédie lyrique. Et du coup, cet opéra d'Antonia Bembo est un petit anachronisme parce que 40 ans plus tard, après la création de l'opéra de Cavalli, Louis XIV donne le même livret à une compositrice italienne réfugiée à la cour de France. Il lui donne ce livret en italien pour le remettre en musique. Ce qu'elle a fait, et l'œuvre n'a jamais été créée parce que le roi était trop malade à l'époque déjà et l'activité de spectacle était beaucoup moins fréquente que... auparavant, du coup, l'œuvre a sombré. C'est très très bien organisé certaines choses en France. Pour les commandes du roi, il y avait toujours les copistes du roi qui faisaient une transcription de la partition. C'était très très beau parce que c'est pas l'écriture d'un compositeur à l'arrache. C'est vraiment très très bien copié. C'est super beau et c'est surtout super lisible. Du coup, on n'a pas la partition originale d'Antonia Bembo, mais on a à la BNF la transcription de la partition par les copistes du roi, et on pourrait presque jouer de cette partition. Du coup, c'est Leonardo García Alarcón qui a trouvé cette partition à la BNF et qui est venu me voir, qui a dit « j'ai trouvé un truc incroyable ». Il me l'a joué et on a assez rapidement décidé que ça valait la peine de présenter la création scénique un peu tardivement, mais quand même dans sa maison mère.
Alors, une dernière question qui rejoint un peu ce que vous disiez sur le fait qu'on donnait des opéras en italien en France au début. Vous disiez en début de rencontre que le public français boudait le répertoire français. Est-ce que vous avez une explication ?
Je cherche la réponse et je suis preneur de manifestations à cet égard. Non, vraiment, je ne peux pas vous le dire. C'est juste quelque chose que je remarque ou quand je regarde les ventes. Tout simplement, et tout ça, ce sont des cycles, on pourrait dire. Le répertoire est moins populaire parce qu'on le donne moins. Pourquoi on le donne moins ? C'est des questions complexes. Il y a toujours une question de combien de répertoires un peu méconnus on arrive à défendre au cours d'une saison. Parce que ce qu'on a vu, Manon, ça ne vend toujours pas très bien. Mais quand on a fait Don Quichotte, par exemple, quand on a fait Roméo et Juliette pour la première fois depuis 40 ans, c'était des succès vraiment très importants avec le public et la critique. Du coup, ça encourage de faire un peu plus d'archéologie.
Merci. Nous allons peut-être nous arrêter là. Donc encore merci, Alexandre Neff.
Merci à vous, Charlotte. Merci.